Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et on part au Venezuela, et ces deux présidents, question, qui aura les clés?
Et oui, on va parler assemblage aussi avec ces deux présidents, deux légitimités, deux camps internationaux. La polarisation semble maximale dans et autour du Venezuela, alors que le président Maduro fait face depuis mercredi à un autre président autoproclamé, Juan Guaido. Dans la rue, les violences ont déjà fait 26 tués depuis le début de la semaine. La communauté internationale est elle-même divisée. Alors où est l'issue? On essaye de voir ça avec vous, Olivier Dabène. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone, situé avec nous depuis Oxford ce matin. Vous êtes professeur à Sciences Po, directeur de l'OPALC et chercheur invité donc à l'université d'Oxford. Alors juste un mot sur Juan Guaido. Il y a 2 heures, il appelait à des élections le plus vite possible. Il promet à Nicolas Maduro le début de la fin. C'est un jeune député de 35 ans, tout juste président de l'Assemblée nationale, et cette prestation de serment qui vient redonner une figure à l'opposition. Alors Olivier Dabène, beaucoup d'analystes ont été surpris de la vitesse de ce mouvement. Est-ce que vous aussi d'abord?
Ah oui, honnêtement oui, il y a effectivement une très nette accélération de l'histoire en ce moment au Venezuela, ce qui ne veut pas dire que l'issue de la crise soit proche évidemment, mais enfin comme vous venez de le dire, l'opposition s'est trouvée une nouvelle figure, ça lui faisait défaut depuis des années, et c'est un vent d'espoir qui souffle à Caracas et dans le reste du pays pour l'année 2019.
Et une première grande question qu'il faut lever, c'est que dans la situation de pression, voire de surpression internationale dans laquelle est le Venezuela, il y a la question de la préméditation de cette proclamation qui s'est posée avec une reconnaissance quasiment immédiate par les États-Unis, et puis l'enchaînement réunion du groupe de Lima, investiture de Maduro, tentative de putsch et proclamation. Est-ce que vous y voyez quelque chose, vous?
Oh, il faut pas être naïf, hein. Quand on regarde l'histoire de l'Amérique latine, on a l'habitude de ce genre de séquence. Et quand on voit les États-Unis réagir aussi vite, c'est évident que ça a été concerté auparavant, hein. Ça s'est passé de multiples reprises dans beaucoup de pays, y compris au Venezuela en 2002, lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Chavez. Donc oui, il y a eu une séquence concertée, au moins entre les États-Unis et l'opposition vénézuélienne. C'est plus que probable, même si pour l'instant, on n'en a pas encore la preuve.
D'accord. Et les États-Unis qui reconnaissent maintenant avec 14 pays, je crois, Juan Guaido président par intérim. Alors pour répondre à la question quelle issue, il y a un peu une triple crise, hein, institutionnelle, politique, internationale. Pour la crise institutionnelle, on a donc un président qui représente une assemblée nationale privée de ses droits, Juan Guaido, et Nicolas Maduro qui représente un régime à la capacité de gouvernance qui est mise en doute justement via la Constitution. Est-ce qu'il y a une situation institutionnellement inextricable aujourd'hui?
Depuis que cette assemblée a été élue, hein, c'est-à-dire en 2015, à la fin de l'année 2015, et depuis que donc le camp chaviste a perdu la majorité des soutiens dans le pays, il y a effectivement une situation compliquée parce que le pouvoir, Maduro a tout fait pour, si vous voulez, rendre inopérante cette assemblée, mais il ne peut pas d'un point de vue institutionnel. La meilleure preuve, on l'a eue effectivement ce 10 janvier. Il devait prêter serment devant cette assemblée, il ne l'a pas fait, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'opposition peut dire qu'il y a vacance de pouvoir et que ce président n'est pas un président légal, que c'est un usurpateur, c'est l'expression qui a été employée, puisqu'il n'a pas prêté serment devant l'Assemblée. C'est d'un point de vue institutionnel, c'est juste. Donc oui, il y a un blocage institutionnel depuis déjà 4 ans, et ça va encore durer jusqu'à soit les prochaines élections législatives en 2020, soit effectivement un dénouement plus rapide sous forme de démission de révocation du président.
Alors justement, de quelle manière est-ce qu'il serait possible de renouer avec l'ordre constitutionnel? Est-ce qu'il y a encore un mouvement que Nicolas Maduro peut faire, que ce soit par son départ, je ne sais pas si ce serait une solution, ou justement suivre Juan Guaido dans l'intention d'organiser des élections libres anticipées?
Alors, Juan Guaido, il applique la Constitution, en quelque sorte. À partir du moment où, en application de certains articles, on décrète qu'il y a une vacance du pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, que la présidence de la République n'est pas occupée, en quelque sorte, il doit convoquer des élections et il doit être président par intérim jusqu'à l'organisation de ces élections, et les délais sont de quelques semaines. Donc, pour l'instant, lui, il applique son interprétation de la Constitution. Évidemment, comme d'habitude, les constitutions peuvent être interprétées de diverses manières, et Maduro, lui, il en a une autre conception. Et donc, selon lui, il n'y a pas lieu d'organiser des élections. Il est président, il vient d'être élu, il vient de prendre cette fonction. Et donc, selon lui, il y aura des élections, mais ce seront des élections législatives en 2020, qui, dans son esprit, je suppose, doit lui permettre de contrôler ce dernier pouvoir qu'il ne contrôle pas. Et donc de tranquillement pouvoir exercer ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.
Bon, et dans cette situation de guerre quasiment institutionnelle, comment ça peut se résoudre? On pourrait dire il y a deux leviers politiques ou au moins deux arbitres politiques au Venezuela même, c'est la rue et l'armée. Pour ce qui est de la rue, on voit qu'il y a des manifestations toujours importantes, même une foule très très importante à Caracas pour la prestation de serment de Juan Guaido. Sur qui est-ce que Nicolas Maduro peut encore s'appuyer, selon vous ?
Alors, très nettement sur l'armée. L'armée a fait une déclaration de soutien. Le ministre de la Défense avec la plupart des chefs d'état-major et des plus hauts gradés dans le pays. Donc, c'était assez significatif, assez impressionnant. Pour l'instant, il y a eu de multiples signes qu'il y avait à l'intérieur de l'armée des dissensions, mais rien de très spectaculaire. Et pour l'instant, c'est la principale base de soutien. La rue, ça fait longtemps qu'il l'a perdue. Et malheureusement, la rue, c'est un lieu dangereux pour les manifestants. Et je ne vois pas d'issue de la rue.
Ouais, pour ce qui est de la rue, je crois que c'est le sociologue Alain Busset qui disait désormais les seuls fidèles ou partisans du régime sont les révolutionnaires convaincus et la bourgeoisie du régime même. Vous êtes d'accord ?
Oui, oui, bien sûr. La bourgeoisie, les gens qui se sont enrichis depuis des années à faveur de schémas de corruption qui sont assez sophistiqués et de très grande ampleur. D'ailleurs, l'armée aussi fait évidemment partie de cette nouvelle bourgeoisie, surtout les hauts gradés, pas le corps de la troupe, lui, qui a les mêmes difficultés quotidiennes que l'ensemble des Vénézuéliens. Mais la hiérarchie militaire est impliquée dans un certain nombre de scandales et s'est considérablement enrichie, grâce au narcotrafic aussi. Et ça explique en grande partie, évidemment, leur positionnement et leur soutien au régime.
Et alors, cette armée qui s'est renforcée, même comme vous le suggérez, avec la crise économique, qui a prêté allégeance, il y a 8 commandants de région, enfin généraux commandants de région importantes, qui effectivement ont affirmé leur loyauté au régime, mais il y a eu cette question de la tentative de putsch le week-end dernier, avec je crois 27 soldats arrêtés. Est-ce qu'il y a une loyauté si importante que ça au sein de tous les corps d'armée ?
Alors ça, je serais bien incapable de le dire, parce que la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On se doute qu'il y a des dissensions, on se doute qu'il doit y avoir des débats. De temps en temps, on voit apparaître comme ça des événements, on sait qu'un certain nombre de militaires sont emprisonnés. Est-ce que tout ça est réel ? Maduro est astucieux, il sait aussi manipuler l'opinion publique, il sait faire en sorte que les gens pensent qu'il est sous la menace d'un coup d'État, de rébellion, pour encore plus, si vous voulez, affirmer son autorité. Donc, bon, on est un peu dans le flou, et c'est aussi la raison pour laquelle la crise est difficile à lire en ce moment, parce que tout peut évoluer très vite, on en a la preuve depuis quelques jours, et le positionnement de l'armée est aussi susceptible d'évoluer. Faut pas penser que après cette démonstration de soutien à laquelle on a assisté, tout ça est immuable et ne va pas évoluer.
Et pour ce qui est d'une potentielle issue ou développement international, est-ce qu'il n'y a pas une situation qui est un petit peu nouvelle et dangereuse aussi là entre les États-Unis et le Venezuela, dans la mesure où Nicolas Maduro a posé un ultimatum aux États-Unis en fixant une date pour l'évacuation de leurs diplomates, c'est demain. Ça, c'est une situation de non-retour ?
Absolument. Je pense que d'ailleurs, plus généralement, la clé de cette crise, elle est au plan international, parce que dans la rue, on ne peut pas faire grand-chose à Caracas, mais on voit bien ici que la situation est extrêmement tendue. Effectivement, Maduro a décidé d'expulser les 72 heures les diplomates américains. Ça, c'est une mesure très forte, très spectaculaire. Est-ce qu'il va le faire ? Les États-Unis ont décrété que, évidemment, puisqu'ils ne reconnaissent pas Maduro comme président, ils ne reconnaissent pas sa décision de rompre les relations diplomatiques. Et par conséquent, ils ont décidé de conserver leur personnel sur place. Donc, est-ce que Maduro va les expulser manu militari ? Ça, ce serait vraiment très, très, très compliqué. Mais l'un des deux présidents va être humilié à l'issue de ces 72 heures. Donc, il se passe effectivement effectivement beaucoup de choses au plan international. Je pense que c'est là la clé de l'évolution de la crise.
Bon, mais à suivre demain avec l'expiration de cet ultimatum et puis une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour voir si une médiation, une réactivation de la médiation est encore possible. On aura l'occasion d'en parler. Mais merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Olivier Dabenne, je le rappelle, directeur de l'OPALC, chercheur invité à l'Université d'Oxford. Et j'ajoute aussi pour nos auditeurs que vous pouvez écouter à 11h Culture Monde qui consacrera une émission spéciale à cette crise au Venezuela. Merci et bonne journée.